Mes frères bien-aimés, face à certains passages de l'Évangile, nous sommes tentés de penser qu'ils n'ont pas de grande utilité et que s'ils se trouvent dans la Bible, ils ne le doivent qu'aux hommes qui l'ont rédigé et non au Saint-Esprit qui l'a inspiré. C'est le cas des premiers versets que je viens de lire. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode était alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. Mais qu'est-ce que tous ces noms font là? Peut-on franchement affirmer que ces informations relèvent de la parole de Dieu? On le peut, mes frères, et je dirais plus, on le doit. Car lorsque l'on aborde les Saintes Écritures, nous devons toujours nous dire que chaque parole est pesée. Que voulez-vous? Dieu ne parle jamais en vain. Chaque mot qui se trouve dans les Saintes Écritures a donc son importance et sa signification. Et si certains d'entre eux nous paraissent obscurs, ce n'est pas parce qu'ils le sont, mais parce que notre intelligence l'est. Aussi, à chaque fois que nous rencontrons une difficulté ou une incohérence apparente, c'est là un appel que nous lance le Saint-Esprit pour entrer plus en profondeur dans la parole de Dieu, pour la creuser et ainsi pour en recueillir une lueur. C'est bien connu, l'or ne se trouve pas en surface, mais au fond de la mine. Il en est de même avec la parole de Dieu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais que nous disent alors les premiers versets de l'évangile du jour? Eh bien, pour les comprendre, il convient en premier lieu de rappeler qui sont tous ces personnages. Il y a tout d'abord l'empereur Tibère, sur lequel les historiens ne se sont jamais mis d'accord. Certains le considèrent comme un tyran et un libertin, d'autres comme un politique habile et prudent. Quoi qu'il en soit, il finit ses jours en exil sur l'île de Capri, donc rien de bien glorieux. Nous avons ensuite Ponce Pilate, qui, comme vous le savez, ordonnera que l'on flagelle le Christ et permettra qu'on le crucifie. Vient alors Hérode, non pas Hérode le Grand, qui massacra les saints innocents pour tenter de tuer le Messie, mais Hérode Antipas, non moins cruel, puisqu'il fit décapiter le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, pour sauver sa face à un banquet. Puis il est fait mention de Philippe le Tétrarque, qui est le bon élève de la liste, puisqu'il semble avoir su maintenir ses territoires dans la paix et l'harmonie, grâce à son caractère modéré. Saint Luc cite également Lysanias, dont nous ne savons pas grand-chose. Et enfin, nous avons affaire aux deux grands prêtres, Anne et Caïphe, qui sont littéralement des déicides, puisque ce sont eux qui ont fomenté la mort atroce de notre Seigneur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tableau n'est pas fameux du tout. Il est même un peu désespérant. Eh bien, c'est justement dans ce jus peu ragoûtant que, dixit Saint Luc, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean-Baptiste. Mais que l'agir de Dieu est surprenant. Alors que l'environnement humain semble au fond du trou, c'est là que notre Père Céleste fait jaillir la plus éclatante des lumières. Eh bien, ce comportement divin recèle deux enseignements capitaux. Le premier est qu'il ne faut jamais juger une personne ou une réalité à partir de son terreau, à commencer par notre propre personne. Car tout ce qui compose le patrimoine génétique et le milieu de vie, ce ne sont que des influences, ce ne sont pas des déterminations. Aussi, ce n'est pas parce que le départ est mauvais que l'arrivée le sera aussi. Ce qui faisait dire au curé d'Ars, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils sont tous bien finis. Prenons un saint François d'Assise. Il baignait dans l'opulence et la débauche, mais cela ne l'a pas empêché de devenir le pauvre le plus saint et le plus connu de toute l'histoire. Prenons un Don Bosco. Il était misérable, à tel point qu'il ne pouvait pas se payer la formation pour devenir prêtre. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir le plus grand éducateur que l'Église ait eu en son sein. Prenons une sainte Bakita. Elle a été arrachée à sa famille, réduite à l'esclavage de ses 9 ans à ses 14 ans, littéralement torturée à maintes reprises. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir une religieuse recherchée pour sa douceur. Prenons un saint Ignace. Il avait déjà 50 ans quand il a fondé la Compagnie de Jésus. Il ne lui restait plus que 15 ans à vivre. Mais cela ne l'a pas empêché de créer une communauté religieuse qui a fait naître la foi en des millions de cœurs sur tous les continents et qui nous a même donné un pape. Voyez, frère bien-aimé, même quand tout semble compliqué sur le plan humain, et donc qu'aucune destinée grandiose ne s'annonce, le Seigneur peut faire des choses ahurissantes. Ne rejetons donc plus aucun être, surtout s'il est peu fortuné, peu intelligent, peu talentueux, peu recommandable, car c'est alors le signe que le Christ prépare un grand coup, mais en secret. En un mot, mes frères, nous devons jauger les êtres, non pas à partir de leur origine, mais à partir de leur finalité. Et cette finalité est toujours splendide, puisque nous sommes tous appelés à devenir fils de Dieu. Dans le même ordre d'idées, ne vomissons pas notre époque, en regrettant au fond de notre âme d'y être né, et en considérant que la précédente était de meilleure facture. Au début de notre ère, en l'an zéro, vous croyez que c'était mieux ? Bien sûr que non, et nous venons de le voir. Arrêtons donc de jouer les défaitistes, et prenons le parti de Simone Veil, elle qui certifiait « Dieu t'a béni de naître à une époque où on a tout perdu, car alors, tout est à gagner. » Le deuxième enseignement que nous octroient les deux premiers versets du jour, c'est qu'il faut aimer ce qui compose notre humus, même s'il nous semble défectueux, car c'est à partir de lui et sur lui que Dieu notre Père veut élever le chef-d'œuvre de notre vie. Si nous rejetons ce qui fait notre histoire, ce qui fait notre caractère, ce qui fait notre personne, nous sapons les outils que la divinité paternelle veut employer. Vous savez, il n'en faut pas beaucoup pour faire un tableau qui se vende à des millions. Un pinceau, même un peu fatigué, et quelques couleurs, même un peu troubles. Et voilà que sous le geste de Léonard de Vinci ou de William Bouguereau, une toile blanche se transforme en fenêtre sur l'invisible. Eh bien, ce pinceau fatigué, ces couleurs troubles, nous les avons tous, c'est nos êtres. Mais si nous laissons Dieu s'en servir, le résultat sera grandiose. Comme l'a parfaitement exprimé Sénèque, ce n'est pas de lieu qu'il faut changer, c'est d'âme. Autrement dit, il ne faut pas rêver d'habiter un endroit supérieur au nôtre. Il ne faut pas rêver de résider dans un corps préférable au nôtre, ou je ne sais quoi. Mais il faut modifier la manière dont nous nous servons de toutes ces réalités que la nature a mis entre nos mains. Et en particulier, en tant que chrétiens, nous devons accorder à notre Père davantage de coups d'effrange dans notre existence pour qu'il en fasse une merveille. Mais cela, encore une fois, passe dans un premier temps par l'acceptation de ce que nous sommes. Et pour le coup, je vais être très concret. En ce qui concerne notre corps, si nous nous trouvons trop petits, si notre tour de taille nous paraît trop important, si notre nez ou nos oreilles ont l'air trop prépondérants, acceptons-le. En ce qui concerne notre âme, si nos capacités intellectuelles sont faibles et que les notes à l'école ne suivent pas, si nous osotons, si notre mémoire nous fait défaut, acceptons-le. En ce qui concerne notre famille, si elle est trop pauvre ou trop guindée à notre goût, si nous avons une mère trop poule ou un père trop autoritaire, si nos frères et sœurs n'ont pas réussi dans la vie, acceptons-le. En ce qui concerne notre vécu, si nous avons eu un accident qui a ravagé notre santé, si nous avons été blessés dans notre enfance, si nous n'avons pas eu le poste ou la carrière que nous désirions, acceptons-le. Car tout cela n'a jamais empêché personne d'accomplir de grandes choses. Abraham était un modeste nomade. Moïse a commis un homicide et il bégayait. Joseph a été vendu comme esclave aux Égyptiens. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et pour finir, parce qu'on ne va pas y passer la journée, Élisabeth était stérile et âgée. Eh bien, toutes ces personnes qui n'ont pas été gâtées par la nature, qui ont eu des vies éprouvantes, ce sont elles qui ont écrit l'histoire sainte. Aussi, malgré nos limites, nos faiblesses, nos blessures, nos péchés, nos erreurs, nous pouvons être des rouages irremplaçables dans le plan de Dieu. Mais pour cela, nous devons acquiescer à ce que nous sommes. Allez, frère bien-aimé, que ces quelques lignes évangéliques, apparemment sans importance, nous fassent le plus grand bien. Car elles décrivent une situation peu reluisante, mais malgré cela, Cette situation fait partie du plan de Dieu et compose maintenant la Bible. Par conséquent, ne maudissons plus jamais notre héritage humain et spirituel, même s'il nous semble détestable. Et ne condamnons plus jamais l'héritage humain et spirituel de ceux qui nous entourent, même s'il nous semble répugnant. Allons même jusqu'à les chérir, car tout cela repose dans les mains de la Providence divine, qui, hier comme aujourd'hui, a plus d'un tour dans son sac. Amen.